Même en plein cœur de l'été, plusieurs dossiers chauds continuent de préoccuper le président de l'Union des producteurs agricoles. Certains de ces dossiers deviennent même urgents. Je me suis entretenu avec Marcel Groslot à quelques heures de rencontre prévue avec des producteurs de bleuets sauvages et des maraîchers au lac Saint-Jean. Nous avons d'abord parlé de l'été. Monsieur Marcel Groslot, bonjour.
Bonjour Lionel.
Monsieur Groslot, comment se passe l'été chez vous sur la ferme laitière à Thetford Mines? Oui.
Ben, en fait, on a été plutôt chanceux. On a donné un gros coup la semaine, les 3-4 belles journées qu'on a eues dans le mois de juin, autour du 10 juin. Moi, j'étais à l'extérieur, mais mon frère a donné un gros coup, puis on a fait 80 % de notre première coupe là, dans ces journées-là. Alors, même s'il a plu après, puis que c'était moins beau, ben, pour nous, c'était ce qui était important était fait, là. Bon, après ça, on a terminé, mais puis là, on vient de terminer la deuxième coupe, là, donc ça va plutôt bien.
Donc, suffisamment de fourrage pour l'année?
Ben, les quantités sont juste normales, là. C'est rien d'extravagant en termes de quantité, mais la qualité va être là. Puis là, on devrait avoir une bonne troisième coupe, alors... Mais nous, on n'est pas totalement autosuffisant. Là. On achète nos grains à l'extérieur. Ce qui est important pour nous, là, c'est de faire du bon fourrage pour alimenter notre troupeau, là.
Et en plus, vous êtes toujours président de l'Union des producteurs agricoles. L'été, est-ce que c'est moins préoccupant pour le président de l'UPA?
Bien, c'est sûr qu'il y a moins de rencontres parce que tous les groupes de producteurs affiliés à l'Union ou pas affiliés à l'Union, mais avec qui on a des relations, tiennent moins d'instances. On a la conférence fédérale provinciale des ministres de l'Agriculture qui a eu lieu la semaine passée, auquel on participe. Je suis allé en juin à l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale des agriculteurs. Puis, j'ai quelques rencontres. Là. Je me rends au lac Saint-Jean là, ce soir et demain pour rencontrer les producteurs de bleuets. Je vais aller voir aussi là où il y a eu de la grêle dans la région d'Héberville. Alors, c'est moins occupant, oui, que pendant, disons, du 15 août au 15 mai.
Si on aborde certaines questions qui sont quand même d'actualité dans cet été en dents de scie qu'on a, vous parliez du lac Saint-Jean où vous allez, les producteurs de bleuets, une récolte à peu près normale qui s'annonce, mais des prix qui sont très bas.
C'est ça, c'est ce qui les inquiète beaucoup actuellement parce que, bon, l'an dernier, la récolte a été excellente, puis les prix étaient moins bons, mais compte tenu du volume, les producteurs étaient quand même relativement satisfaits. Mais cette année, la récolte s'annonce un peu moins que normal et les prix semblent rester bas. Il n'y a rien de conclu encore, mais bon, il y a un surplus de production l'an dernier au Maine, Nouveau-Brunswick, ici au Québec également. Beaucoup plus de bleuets de Corinth aussi dans le marché. Donc, la compétition est plus forte et ça affecte les prix sur les marchés, donc les prix que les producteurs reçoivent. Alors, il faut trouver des solutions là, pour que les producteurs puissent traverser ces périodes-là plus difficiles.
Et en ce qui concerne la grêle des producteurs du lac Saint-Jean, la zone d'Héberville tout particulièrement, des maraîchers qui ont tout perdu, là, question compensation, il faut voir de quelle façon ils pourront être aidés. Là.
C'est ça. Bien, il y a ceux qui sont assurés. Naturellement, la financière agricole va intervenir. Mais dans ce type de catastrophe-là, parce qu'il s'agit vraiment d'une catastrophe, là, les assurances qu'on a ne sont pas... c'est pas des programmes... pour répondre à ce type de catastrophe-là. Alors, c'est sûr qu'on va aider les producteurs. L'UPA local est déjà au travail. Puis, on va demander une intervention ad hoc là, du gouvernement ou de la financière pour soutenir les producteurs. Parce que, juste, bon, les gens qui doivent s'approvisionner en maïs, en silage, c'est pas évident de remplacer une production de maïs en silage là, à Héberville. Là. Alors, bon, on va voir avec eux quelles solutions les producteurs voient pour se sortir de cette impasse-là. Mais c'est sûr que ça va prendre une intervention ad hoc de la financière agricole ou du MAPAC.
D'autres questions d'actualité, et c'est tout chaud au moment où on se parle, on apprend que le gouvernement du Québec vient de doubler le budget d'Aliments du Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle?
Absolument, parce que lorsqu'on a eu le dernier rendez-vous en préparatoire au sommet, celui qui, bon, où les producteurs, c'était le rendez-vous des producteurs agricoles, lors de ma conclusion, j'ai fait allusion à l'importance d'Aliments du Québec. Et moi, tu me l'apprends cet après-midi, là. Je le savais pas encore, mais c'est une excellente nouvelle. Puis Aliments du Québec a de très bons programmes. Il y a un intérêt des consommateurs pour le logo. Il y a une reconnaissance du logo par les consommateurs. Donc, les transformateurs et les distributeurs sont intéressés à poser le logo sur leurs produits. Alors, si on double, si on fait plus de double budget, plus de promotion, plus de démarchage auprès des transformateurs pour que encore plus de gens l'utilisent, c'est sûr que c'est de bon augure pour cette organisation-là, oui, ce logo-là.
Et donc, ce sera quelque chose qui sera dans l'assiette disponible à présenter lors du grand sommet sur le bioalimentaire québécois
ça,
à l'automne.
C'est ça. Je pense que le ministre prend de l'avance un peu pour les bonnes nouvelles. Mais M. Paradis avait légèrement coupé le budget. On lui disait que ça n'avait aucun sens, là, que les consommateurs recherchaient, puis on avait besoin de faire la promotion. Lorsqu'on compare le logo du Québec, Aliments Québec, à Foodland en Ontario ou à d'autres organisations provinciales au Canada qui font la promotion de leurs produits, on n'était pas du tout compétitif avec le budget qu'on avait. Alors là, on va pouvoir, je pense, être compétitif par rapport à l'Ontario notamment.
Continuons dans l'actualité. Le premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, a renouvelé l'engagement, son engagement personnel et celui de son gouvernement à protéger la gestion de l'offre dans la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis. La menace reste toujours réelle là, dans ça.
En fait, la menace, on a de la misère à l'évaluer maintenant parce que ce que M. Trump dit, qu'il est prêt à déchirer l'ALENA si les États-Unis ne font pas de gains substantiels, fait craindre le pire. En même temps, lorsqu'on rencontre ou lorsqu'on tient compte des commentaires du secrétaire d'État à l'agriculture, M. Perdue, qui est venu en visite au Canada, lui, ses propos étaient beaucoup plus modérés. Oui, il parlait de gains, mais il reconnaissait que les échanges en agroalimentaire entre le Canada et les États-Unis étaient balancés. D'ailleurs, la balance commerciale agroalimentaire est à la faveur des États-Unis pour quelques 5 ou 6 milliards de dollars, là, à la faveur des États-Unis. Donc, on importe plus des États-Unis que les États-Unis n'importent du Canada. Alors, s'il y a des gains à faire pour les États-Unis dans l'ALENA, c'est pas dans le secteur agroalimentaire. Alors, on verra ce que... La position de M. Trudeau et du gouvernement est intéressante aussi par rapport à la gestion de l'offre. Je pense que c'est la première fois dans une négociation internationale ou bilatérale que le gouvernement est aussi clair sur la gestion de l'offre avant même le début des négociations, là. Mais en même temps, c'est sans doute que le gouvernement sait que la pression sera importante, puis il se positionne clairement maintenant et ça, c'est apprécié.
Vous parliez de confusion entre M. Trump et M. Perdue. Et il y a aussi les négociateurs, négociateurs américains, qui affirment déjà dans la présentation des requêtes sommaires américaines que, oui, il y a des gains à aller chercher en agriculture et la gestion de l'offre n'est toujours pas exclue de ces gains potentiels-là.
En fait, ils ne parlent pas, les Américains, de la gestion de l'offre comme telle. Ils parlent de l'accès au Canada pour les produits laitiers et de volailles. Alors, comme dans toutes les négociations, l'intérêt pour les États-Unis, c'est pas de modifier notre politique agroalimentaire canadienne, mais c'est d'avoir plus d'accès à notre marché. Mais ce qui est injuste dans ces négociations bilatérales-là, c'est que nous, on n'exige pas du gouvernement américain qu'il soutienne moins son industrie laitière ou qu'il soutienne moins son agriculture. Le gouvernement américain, c'est 100 milliards par année, le Farm Bill. C'est 1 000 milliards sur 10 ans. Dans les négociations qui vont débuter, le gouvernement canadien ne remet pas en question la politique agricole, le Farm Bill américain ou la politique agricole américaine. Alors, on verra comment ça va se conclure, mais dans ces négociations-là, ce qui fait défaut, c'est qu'on négocie, on veut négocier des accès supplémentaires, mais on ne négocie pas, parallèlement à ça, le soutien à l'agriculture. Alors, ça reste problématique pour la compétitivité entre les producteurs canadiens et américains.
Monsieur Marcel Groslot, si on regarde du côté de l'accord Canada-Union européenne, qui donc va entrer en vigueur à compter d'octobre prochain, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées en parallèle à cet accord de libre-échange.
En fait, l'accord va entrer partiellement en vigueur. Partiellement parce que tous les pays de l'Union européenne n'ont pas ratifier cet accord-là au moment où on se parle. Donc, il y a 90 % de l'accord qui va entrer en vigueur, dont l'importation par le Canada de 17 000 tonnes de fromage là, sur les 6 prochaines années. Alors, ça, on connaît ça. Par contre, ce qu'on ne connaît pas encore et ce qu'on déplore, c'est qu'on n'a pas encore d'informations sur qui aura le droit d'importer ces fromages-là, qui va détenir les quotas d'importation. Ça, ce n'est pas encore clarifié. Et le deuxième point, c'est on a annoncé un budget pour soutenir l'industrie et le secteur laitier, mais on ne connaît pas encore les détails de ce programme-là. Alors, comme le mois d'octobre, c'est dans quelques semaines, et ça commence à être urgent pour les producteurs de fromager, pour les producteurs laitiers, pour l'industrie, de connaître les détails concernant qui va pouvoir importer les fromages et de quelle façon les compensations seront admissibles pour les producteurs agricoles.
Parce qu'il y a plusieurs fromagers, des gros et des petits, qui ont investi déjà des sommes importantes là, en proportion de leur niveau d'activité, bien sûr. Et là, je pense entre autres à Agropur, qui a investi des dizaines de millions dans des usines, dans des installations. Oui. Des petits fromagers qui ont agrandi leurs propres installations, leur capacité d'affinage. Mais tout ça, ces entreprises-là le font à leurs frais pour l'instant, en prévision de ce marché qui va être plus ouvert.
C'est ça, puis c'est sans doute un des problèmes qu'on aura, c'est que les gens qui vont investir quand le programme sera disponible pourront bénéficier d'aides que ceux qui auront investi avant l'annonce de ce programme-là n'auront pas accès. Alors, c'est toujours le problème. Si ça avait été annoncé il y a déjà 2 ans, ces aides-là, et ça avait été disponible, les gens auraient pu se préparer avec le soutien de l'État à faire face à cette compétition supplémentaire-là. Mais moi, j'espère que les gens vont vraiment se dire, bon, faut donner un coup de main à l'industrie puis consommer un peu plus de fromage, parce que c'est 30 % de plus de fromage fin qui va arriver sur le marché canadien d'ici les 5 prochaines années. Alors, il faut faire de la promotion sur les fromages. Dans les autres provinces, on peut augmenter la consommation de fromage fin. Au Québec, on peut encore le faire, c'est sûr. Il y a un vrai défi pour l'industrie, là. 30 % de plus, c'est énorme. Sur une période de 5-6 ans, c'est énorme, là. Alors, il y aura un impact sur les fromagers et sur l'industrie laitière canadienne.
Dans un dossier comme celui-là, ça prend vraiment tout son sens lorsqu'on parle de l'impact de l'achat local.
Oui, absolument, parce que, encore une fois, je réfère au sommet, au rendez-vous qu'on a eu des producteurs agricoles. Moi, j'aimerais qu'il y ait un règlement pour assurer que dans tous les sites de vente de fromage, que ce soit en grande, dans les chaînes ou autres, mais qu'on identifie clairement dans un étal que ce soit les fromages locaux, les fromages québécois, et que les fromages importés soient dans un autre comptoir, qu'il y ait vraiment 2 comptoirs distincts, pour que les consommateurs québécois puissent bien choisir entre l'un et l'autre et savoir qu'est-ce qu'ils achètent, parce que souvent, ces fromages-là vont être offerts en découpe. L'identification ne sera pas claire. On va voir sur le produit le nom du distributeur, pas toujours la provenance du fromage. C'est déjà le cas actuellement. Alors, moi, je souhaiterais qu'il y ait une réglementation qui exige un positionnement clair des fromages québécois, canadiens, versus les fromages importés pour que les consommateurs puissent faire un choix éclairé.
Et éventuellement, qui sait, ça pourrait être une chose que l'on retrouverait dans une éventuelle politique bioalimentaire du Québec. Ici Lionel Levaque. Dans mon prochain blog, je poursuivrai cet entretien avec le président de l'UPA. Nous parlerons de politique bioalimentaire québécoise en préparation, de politique alimentaire canadienne, elle aussi en préparation, du renouvellement des enveloppes budgétaires fédérales à l'agriculture, qui est maintenant chose faite, de main-d'œuvre étrangère et de certification bio. À ce sujet, Marcel Groslot estime qu'une part des coûts de certification de la production biologique devrait être couverte par l'État pour stimuler le secteur. Au revoir.